Jacqueline Kellen, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été journaliste, mais vous êtes écrivain depuis quelques années. Écrivain au service de l'esprit, que je définirais comme étant le souffle de Dieu. D'ailleurs, dans votre dernier livre, vous dites « mourir ou mûrir », ce qui inclut donc la vie dans l'au-delà, et qui vous définit en quelque sorte comme croyant.
Oui, merci, mais c'est le terme « croyante », moi, qui me pose question, parce que c'est la distinction que je ferai entre la croyance et la connaissance, ou l'évidence. Croire, ça peut vouloir dire être crédule, hein, mais ça veut dire aussi accorder sa foi au sens religieux. La connaissance ou l'évidence, c'est de l'ordre de l'expérience intérieure et vivante. Et par exemple, dire croire en Dieu, ça peut être, bon, j'ai été élevé dans telle religion, donc la religion chrétienne ou la religion juive musulmane, et je suis, j'accepte, je consens à ces dogmes, ces traditions, etc. Si c'est de l'ordre de l'expérience personnelle, c'est-à-dire j'ai une expérience ou une expérience spirituelle m'est donnée, et à ce moment-là, c'est même plus je crois, c'est évident, c'est une certitude intérieure que je ne peux bien sûr ni prouver, ni expliquer, ni argumenter. Donc voilà la différence. Donc l'expression « être croyant » me gêne un peu, mais j'espère, comme vous l'avez gentiment dit, que ma démarche d'écrivain, en effet, témoigne d'un principe supérieur, d'une puissance supérieure, de réalités éternelles que Platon appelait les idées, et donc invite, exhorte l'être humain à grandir, à devenir noble et à devenir libre, en effet, et à sauver son âme.
Est-ce qu'on peut parler quand même d'esprit qui souffle, hein, vous en tant qu'écrivain, en tant qu'inspirateur par exemple ?
Moi je fais toute confiance à l'esprit, mais ce n'est pas moi qui déclare ou décide que mes propos ou mes écritures sont inspirées. Mais en effet, s'il y a une présence à laquelle je pense infiniment et qui est souveraine, c'est celle en effet de l'Esprit Saint. Présence de laquelle on parle peu finalement.
Vous êtes, je pense, issu d'une tradition peut-être catholique, chrétienne, dans votre famille. Mais comment êtes-vous né à l'esprit ? Est-ce que vous avez vécu une métanoïa un jour ou est-ce que ça a toujours été naturel ?
Oui, j'aime bien les questions très simples. J'ai été élevée dans la religion catholique romaine parce que, à l'époque, je dis déjà à l'époque parce que je pense que là nous sommes largement, en France en particulier, sous le régime du matérialisme athée ou du n'importe quoi, sous prétexte de laïcité. Mais donc j'ai été élevée dans la religion catholique parce que mes parents, qui n'étaient pas du tout pratiquants, penser, et à juste titre, ça faisait partie d'une bonne éducation. Donc morale, de respect d'autrui, d'un but dans l'existence, d'un idéal. Et j'étais très contente de cela parce que, de fait, autant je me souvienne, toute petite, il n'y a pas une conversion, métanoïa ou rencontre de personnes ou de livres qui m'ont retournée ou illuminée. Mais toute petite, je baignais dans cette évidence qu'il y avait un monde supérieur, un monde surnaturel, un monde invisible, que l'on appelle, si on l'appelle Dieu, et le Dieu des chrétiens, moi ça me convenait tout à fait parce que j'étais persuadée, mais je le vivais dans tout mon être, il y avait celui que les chrétiens appellent Dieu. Et ensuite, donc, c'est une grâce, c'est une chance. En effet, ça ne veut pas dire que c'est un chemin de tout repos, parce qu'après, en effet, comme... tout être humain, il y a des épreuves dans l'existence ou des grandes trahisons ou des grandes douleurs qui font à ce moment-là soit bêtement on se rebelle contre Dieu ou pourquoi moi et pourquoi etc. Donc je dis bêtement parce qu'en effet c'est une réaction infantile, il faut grandir et donc ce n'est pas de la maturité et à ce moment-là cette présence divine supérieure peut s'absenter ou du moins on ressent qu'elle qu'elle s'absente. Donc là, c'est vraiment le parcours normal d'un chemin spirituel. Ce n'est pas une ligne droite, sans accroc, assurée, puisque pour moi, la vie spirituelle est tout sauf sécurité, tranquillité et calme. Pour moi, la vie spirituelle est bouillonnante. Il y a des hauts, des bas, des abîmes, des gouffres et des sommets. Il s'agit donc de maintenir le souffle jusqu'au bout et de rester orienté vers cet idéal.
On peut dire que vous restez quand même dans une forme de tradition chrétienne, mais vous êtes plutôt autodidacte, c'est ça, de la spiritualité ?
Je ne sais pas s'il faut dire autodidacte.
Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas affilié à un mouvement ou à une figure spirituelle.
Tout à fait. Alors, je n'adhère en effet à aucun groupe, à aucune communauté, etc. Parce que j'ai un goût immense de la liberté. Et par ailleurs, je ressens que la démarche spirituelle est éminemment solitaire et singulière. Ce n'est pas une aventure collective. La religion, en effet, bon, il y a des communautés, un assemblement, une réunion, que ce soit pour la messe ou d'autres cérémonies ou d'autres liturgies. Mais la voie spirituelle est vraiment singulière et solitaire. Chacun a son champ particulier. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Et donc, quand vous dites aussi autodidacte, je souris, parce que, donc, indépendante, certes, mais autodidacte au sens où, moi, j'ai toujours, et pas simplement à cause de mes études, j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup cherché, beaucoup étudié, j'ai la passion de l'étude. Et ce qui m'a, comment dire, entre autres, éloignée de la pratique religieuse et surtout dans la religion catholique, et je le dis aux catholiques eux-mêmes, c'est l'absence de culture, l'absence de connaissances spirituelles qui est le fait de la plupart des catholiques. Par exemple, on a pensé que j'étais protestante parce que je connais les Écritures. Moi, ce qui me paraît la moindre des choses, comment aller, je ne sais vers quel culte orientaux, sans avoir lu sa propre tradition. Donc moi, j'ai lu et relu et médité la Bible. Si je m'intéresse ou voir si j'aime celui qu'on appelle Jésus ou le Christ, il est évident que j'ai envie de lire tout ce qui a été écrit à propos de lui ou contre lui. Vous voyez, donc autodidacte au sens où, je préférais plutôt que d'aller écouter des sermons infantilisants ou mièvres ou qui parlent de la vie de tous les jours et la vie profane. Je préférais en effet rester chez moi à lire philosophie spirituelle, mystique et théologien. Voilà, donc en ce sens, oui, je suis une autodidacte. Mais alors maintenant, mais je ne sais plus ce que veut dire être chrétien. Je suis tout à fait de culture chrétienne, en effet, mais en même temps, je me sens tout à fait platonicienne. Pour moi, ce n'est pas incompatible, et c'est pour ça que je me sens tellement proche des humanistes de la Renaissance, comme le jeune Pic de la Mirandole. C'est toujours la sagesse éternelle, qu'on peut l'appeler l'esprit divin, en effet, qui souffle à travers la philosophie, les mythes, les religions, l'art, et donc qui, au bout du compte, donc on le verra peut-être un jour, mais pas dans ce monde-ci, qui, au bout du compte, rassemble toutes ces voies éparses. Elle est une, la sagesse éternelle, comme Dieu est un. Mais il y a plusieurs langues pour le dire, il y a plusieurs musiques pour le chanter, et donc moi je me sens à la fois chrétienne et platonicienne.
Est-ce que, comme le chante Mathieu Chédid, vous vous sentez un peu comme une âme? Et comment la nourrissez-vous? Mais vous avez déjà partiellement répondu. Puisque, excusez-moi, je cite un aphorisme de votre dernier livre. « Pour l'âme mystique qui se sent ici-bas exilée, l'enfer, on y est. C'est le monde profane, oublié de l'éternel, blasphémateur et grossier.
» Alors j'ai ou je suis une âme, d'aucuns diront l'esprit, hein, propre à la dimension spirituelle, parce que l'âme on la confond aussi avec le psychisme, donc voilà. Mais en tant que principe, j'espère bien que d'autres hommes, d'autres femmes ressentent cette dimension spirituelle, cette dimension divine qu'il faut reconnaître, honorer et sauver. Ça me paraît extrêmement important. Et c'est pour ça que c'est à la fois chrétien et platonicien. Tout le parcours décrit par, entre autres aussi les néoplatoniciens comme Plotin, le parcours de l'âme, c'est ce principe éternel qui est tombé dans ce monde-ci, le monde visible, concret, le monde de la matière aussi, qui n'est pas un monde odieux, il a ses beautés, ses belles rencontres, ses plaisirs, mais ce n'est pas le lieu de résidence, ce n'est pas là où il faut rester à demeure. Et tout le propos, c'est de faire retour à la source, à l'origine, à la patrie originelle. Et les platoniciens parleront donc de retour à Dieu, hein, le Dieu n'étant pas le Dieu des chrétiens, puisque bon, Platon, c'était 5 siècles avant Jésus-Christ. Si un être humain ressent cette dimension immortelle en lui, il est évident que ce monde-ci, lui paraît, même le corps, lui paraît être un vêtement très étroit, voire une prison. Bon, et ça ne veut pas dire qu'on méprise le monde et qu'on méprise le corps, mais il est évident que tous les grands philosophes ou mystiques ou ceux qui parient, j'allais dire, davantage sur cette dimension de l'être, en effet, se sentent terriblement à l'étroit en ce monde. Et alors, d'autant plus, c'est surtout un monde, donc tel que notre époque actuelle, qui bannit, qui refuse, qui nie, qui piétine, qui bafoue toute dimension verticale.
Je pense en sens se relier du terme.
Oui, oui, oui. De nos jours, il est presque obligatoire de ne penser qu'à cette vie-ci, cette existence, ce monde borné, et toute préoccupation d'ordre métaphysique les grandes questions, d'où je viens, où je vais, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a le mal, la mort, etc. Enfin, le sens de tout cela. Et refuser, évacuer au bénéfice de, bah, du bien-être, du bonheur, de l'amour de soi, de la confiance en soi, enfin, le narcissisme affreux dont on voit l'étalage partout de nos jours. Ce refus total de la transcendance, c'est dramatique. Le principe supérieur ou le Dieu, le divin, lui, il s'en porte pas plus mal. Hein. Mais c'est l'être humain qui est de plus en plus, qui à force de s'aplatir, ben, on va tomber, à force d'être dans l'horizontalité, ben, on va dans les bas-fonds. Et on y est.
Dans votre œuvre, en général, vous aimez les morts courtois, par exemple, du XIIe siècle. Mmh. Vous citez Platon à l'instant. Vous aimez vous tourner vers les éveillés des temps passés. C'est pour ça que je dis ça, enfin, certains. Et dans l'époque contemporaine, est-ce qu'il y en a vers qui vous puisez des forces ou vous vous tournez? Je pense, par exemple, à Arnaud de Jardin, qui est décédé récemment, ou encore un livre comme Dialogue avec l'ange ou d'autres, éveillés des temps modernes. Et plus globalement, oui, quel regard portez-vous sur ce monde 2.0? Vous y avez déjà un peu répondu, mais...
Qu'est-ce que c'est, le monde?
La modernité.
Alors, je commence par le monde 2.0, qui me paraît
en fait,
le monde 0.
Est-ce que vous êtes nostalgique, finalement, d'un temps passé? Ou est-ce que l'époque trouve grâce à vos yeux, voilà.
Il y a tellement de questions, là, et oui. Donc foisonnantes. Et il ne s'agit pas d'opposer un passé qui aurait été merveilleux ou le bon vieux temps. Je ne regrette pas ni mon enfance, ni mes 20 ans, et je ne pense pas que c'était mieux avant, comme on dit. Ce n'est pas de cet ordre-là. Je suis, en revanche, nostalgique au sens fort du terme, à savoir... ce mal du retour. Je n'oublie pas que moi, je n'appartiens pas, enfin, ce n'est pas orgueilleux de dire ça, parce que c'est de l'ordre spirituel. Hein. Moi, en tant qu'être humain, bah, j'appartiens à ce monde, à cette époque. Je suis né de tels parents qui ont fait ceci, donc je suis un individu comme chacun, historique, sociologique, psychologique, etc. Mais ma dimension intérieure échappe à ce monde. Donc, elle a soif, cette dimension-là, elle a soif de retourner, donc la nostalgie, le retour au divin, hein, sa vraie patrie. Donc ça, c'est une chose. Bon, quand vous me disiez par rapport aux les éveillés, ce n'est pas une étiquette. Il y a des êtres qui ne font pas profession ni spirituelle ni d'éveillé et qui rayonnent quelque chose, hein, qui transmettent quelque chose et qu'on ne voit pas ni dans les médias ni sur les réseaux, etc. Moi, je suis nourrie, en effet, j'ai fait de belles rencontres tout de même, mais je suis nourrie de contemporains, mais je suis nourrie, en effet, des textes, donc des écrits, mais aussi de la musique et de l'art de tous ceux qui nous ont précédés. Enfin, je n'ai pas lu, tout vu, etc. Mais je me dis, rien que cela, c'est un trésor fabuleux. Bon. Et là, que ce soit chez les philosophes, chez des poètes, j'aime beaucoup la poésie, et aussi chez des auteurs spirituels, en effet, il y a des perles. Et donc moi, je pense plus à me nourrir de cette tradition et essayer de la transmettre d'une certaine façon, au lieu de chercher, puisque ça n'a jamais été mon but dans l'existence, de chercher un maître, un éveilleur, un gourou dont je serais la disciple. J'ai horreur à l'idée que quelqu'un soit disciple, suiveur, imitateur, etc. Je répète volontiers la phrase de Krishnamurti qui dit « Être disciple est une calamité ». Alors parlant de Krishnamurti, que je n'ai jamais rencontré hélas, et que j'ai découvert, dont j'ai découvert les livres, qui sont en fait des conférences, vous le savez, assez tardivement, je dirais. Et pour moi, Krishnamurti est sans nul doute un des rares esprits libres qui est soufflé sur cette terre. Et quand on lit des conférences qu'il a données dans les années 60, par exemple, et en Inde, c'est quand même un pays complètement, j'allais dire, quand même sclérosé dans certaines traditions de caste, de traditions familiales terribles, que ce soit pour les veuves et autres, et la vigueur avec laquelle il parle, mais ses propos sont décapants, mais extraordinaires. Voilà, pour moi, un éveilleur, ce serait non pas celui qui fait profession de maître et gourou, mais celui qui vous éveille à votre immense liberté. Ce dont on a le moins envie, bien sûr, on préfère dire « je suis ce qu'un tel dit, je fais ce qu'il me dit, je pratique tel qu'on me dit, etc. » Voilà, donc pour moi, tel est le propos d'un éveilleur, et un éveilleur peut être à ce moment-là un livre, ça peut être une musique, ça peut être un tableau, donc voilà. Vous me parliez aussi d'Arnaud Desjardins, je sais que j'avais invité un colloque pour l'interviewer, et puis, enfin, de sciences humaines, et puis, si j'avais écrit aussi des articles concernant ses livres, il m'avait remercié en disant que malgré sa notoriété, aucun journaliste, bien sûr, de la presse ordinaire ne parlait de ses livres. Et il m'avait invité un jour à parler lors d'une assemblée générale qui avait lieu une fois par an. Et je m'étais dit, moi, en tant que sale bête, farouche, indépendante et n'aimant pas être, ne voulant surtout pas être disciple, et je me disais, c'est un homme comme un autre, un citoyen français comme un autre. Et je me disais, peut-être tout le monde va s'agenouiller devant lui ou se prosterner. Moi, je vais lui serrer la main. Et j'ai rencontré un Arnaud tout à fait charmant et, en effet, qui jouait pas du tout avec moi, en tout cas au gourou. Et on a eu une relation très jolie de sympathie, après qui s'est transformée, en effet, je pense, en amitié. Et puis, après, on s'est embrassés, non pas, et je n'ai jamais joué la disciple. Voilà. Et ce qui m'intéresse chez Arnaud Desjardins, dont j'ai lu plusieurs livres en effet, il a fait connaître à l'Occident ces merveilleuses personnes sages de l'Inde, et en même temps il est revenu et il n'a jamais renié sa tradition chrétienne. Donc c'est un être vraiment quelqu'un de bien. Mais encore une fois, moi ce que j'aime, et ça c'est la tradition de la philosophie grecque, c'est pas une relation de maître à disciple, la relation d'amitié. L'amitié est une vertu et l'exercice de l'amitié, donc en tant qu'égalité et réciprocité, fait partie d'une démarche spirituelle. Hein. Donc la relation de maître à disciple, moi ça me paraît odieux, même en tant que si on me considérait comme maître, qu'à Dieu ne plaise. Mais je trouve ça affreux. C'est comme si moi, je savais des choses et je vous donne la grâce de... Je vous les transmets, mais c'est affreux. Alors, bien sûr, chacun a plus de savoir ou de connaissances ou d'expérience que d'autres, mais on a tous des sensibilités différentes. Et la relation de supériorité à infériorité me semble odieuse. Ça, c'est vraiment typique de la tradition occidentale. C'est des relations de liberté et d'amitié, donc d'égalité, et non pas, je ne suis pas inféodé ni assujetti à qui que ce soit. C'est pour ça que, merveille, que Krishnamurti le rappelle, lui d'où il vient, et refusant, bien sûr, d'être aussi le maître et le messie que tout le monde attendait. Ça, c'est un grand, grand exemple, hein, ne pas rechercher le pouvoir, pas plus qu'un Socrate qui dit « moi, je ne sais rien », mais il n'arrête pas de se questionner et de questionner autrui en disant « mais qu'est-ce que le souverain bien, comment vivre de façon juste ?»